Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le lundi 21 août 2023. Il est 5h30 en temps universel. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Nanit Salani pour vous présenter le monde aujourd'hui. À la une ce matin, manifestation au Niger en soutien au régime militaire, alors que le chef de la junte met en garde contre une agression. Cette personne meurt lors d'un incendie dans un camp de sinistrés dans le sud de Kivu, dans l'est de la RDC. 5 policiers burkinabés en mission de reconnaissance meurent lors d'une attaque. Le gouvernement somalien interdit TikTok et Telegram pour mieux lutter contre le terrorisme. L'ancien président américain Donald Trump confirme qu'il ne participera pas au débat des primaires du Parti républicain. Dans la partie magazine, nous entendrons la réaction des avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko contre les poursuites pour divers chefs d'accusation visant leurs clients. Puis dans 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec les nouvelles sportives et l'économie. En attendant, le journal. Au Niger, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dimanche à Niamey en soutien au régime militaire qui a annoncé la veille envisager une transition de 3 ans maximum. Le point avec Idrissa Fall.
De nombreux slogans hostiles à la France et à la CEDEAO ont été scandés ou affichés hier sur des pancartes. Non aux sanctions, halte à l'intervention militaire, pouvait-on lire sur la place de la Concertation à Niamey. C'était au lendemain du discours télévisé du nouvel homme fort, le général Abdourahmane Tchani, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet. Il a annoncé le lancement d'un dialogue national inclusif précisant que la durée de la transition n'excéderait pas 3 ans. Le samedi, une délégation de la CEDEAO venue à Niamey a pu échanger avec le général Tchani et rencontrer Mohamed Bazoum, toujours prisonnier. Vendredi soir, après une réunion de ses chefs d'état-major, la CEDEAO avait même indiqué que le jour de l'intervention a été fixé sans dévoiler de calendrier précis. Une menace prise au sérieux par le général Tchani qui a prévenu samedi soir que le Niger ne resterait pas les bras croisés en cas d'intervention. Dimanche, au Vatican, le pape François a appelé à une solution pacifique, tout comme l'Algérie, qui partage une longue frontière commune avec le Niger.
Au Burkina Faso, 5 policiers en mission de reconnaissance ont été tués samedi lors d'une attaque dans le centre-est du pays, a annoncé l'état-major dans un communiqué hier. Le point avec Alexandrine Volognon.
Selon l'état-major, dans l'après-midi de samedi, le 7e groupement d'unités mobiles d'intervention de la police nationale a été accroché par des terroristes à hauteur de la localité de Diogo-Yurga, dans la province du Koulpelogo, proche du Togo. L'incident qui est intervenu alors que l'unité effectuait une mission de reconnaissance a coûté la vie à 5 policiers. 4 autres blessés ont été évacués, précise le communiqué. Dans la riposte, au moins 40 terroristes ont été tués et du matériel saisi assure l'armée. Le 7 août, une 20aine de personnes ont été tuées à Nohao, près de la ville de Bito, dans la même province de Koulpelogo. Mi-juillet, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait déploré des attaques de plus en plus récurrentes contre les civils, estimant que les djihadistes faisaient preuve de lâcheté. Depuis 2015, les attaques de djihadistes ont fait plus de 16 000 morts selon l'ONG Acled, dont plus de 5 000 depuis le début de l'année. Ces violences ont aussi entraîné le déplacement interne de plus de 2 millions de personnes.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du sud Kivu, un incendie s'est déclenché au cours du week-end dans le camp de sinistrés de Bushushu, au cœur du territoire de Kalehe. Bilan, 7 morts, dont 5 enfants et plusieurs blessés. Davantage avec notre correspondant dans la région, Zanem Netizaidi.
Une nouvelle tragédie a frappé les victimes des inondations de Bushushu et Nyamukubi dans le territoire des Kalehe au sud Kivu. Le samedi 19 août, un incendie s'est déclaré dans les camps où elle avait trouvé refuge à Mushobezo, faisant au moins 7 morts, dont 5 enfants et 2 blessés graves. Plus de 400 abris ont été réduits en cendres, laissant des centaines de familles sans nourriture ni abri. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Les victimes sont des survivants de la catastrophe du 4 mai qui avait fait plus de 5000 disparus et des centaines de morts dans la région à la suite des pluies torrentielles qui ont provoqué des glissements des terrains et des inondations. Depuis, ils vivent dans des conditions précaires et sans assistance notable. Zalem Netizaidi pour VOA Afrique.
Au Gabon, la principale coalition de l'opposition appelle ses participants à ignorer les législatives qui se tiendront le même jour que la présidentielle prévue le 26 août. Lors d'un meeting à Libreville hier, les leaders de la plateforme Alternance 2023 et ont désigné Albert Ondo Ossa comme son candidat consensuel, ont exhorté quelques milliers de partisans à ne voter que pour le président et à sacrifier leur vote pour l'Assemblée nationale. Les ténors de l'opposition y ont de nouveau accusé le pouvoir d'avoir instauré au dernier moment un bulletin de vote unique pour la présidentielle et les législatives. Selon eux, c'est une manœuvre destinée à favoriser la réélection d'Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans. Cette coalition de l'opposition vient de se rallier derrière un unique candidat pour défier le président sortant, Ali Bongo Ondimba. Les gardes-côtes frontières saoudiens ont tué depuis l'an dernier des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe passant par sa frontière avec le Yémen, dénonce ce lundi l'ONG Human Rights Watch. Les autorités saoudiennes tuent des centaines de migrants et de demandeurs d'asile dans cette zone frontalière reculée à l'abri du regard du reste du monde, a déclaré dans un communiqué Nadia Hardman, spécialiste de migration à l'ONG. Les milliards dépensés dans le sport et le divertissement pour améliorer l'image de l'Arabie saoudite ne devraient pas détourner l'attention de ces crimes horribles, a-t-elle fustigé. Des centaines de milliers d'Éthiopiens travaillent en Arabie saoudite.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a confirmé hier qu'il ne participera pas au débat des primaires du Parti républicain dont le premier a lieu mercredi. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée avec l'indépendance énergétique des frontières et une armée forte, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementations. Pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'histoire et bien d'autres choses encore, a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Je ne participerai donc pas au débat, ajouté l'ancien président républicain, affirmant bénéficier de 62% des intentions de vote aux primaires républicaines. 5 mois avant le début des primaires qui désigneront le candidat républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump bénéficie d'un soutien de sa base malgré ses déboires judiciaires. M. Trump, qui dénonce une chasse aux sorcières, est inculpé de complot à l'encontre des institutions américaines en lien avec ses actes pour inverser le résultat de la présidentielle de 2020, de gestion négligente de dossiers confidentiels et de falsification de documents comptables après l'achat du silence d'une actrice de film X. Le premier débat républicain est prévu ce mercredi à Milwaukee, dans le nord-est des États-Unis. 7 candidats vont y participer.
Toujours ici aux États-Unis, des pluies torrentielles se sont abattues dimanche en Californie à l'approche de la tempête tropicale Hilary, menaçant le sud-ouest du pays où de dangereuses inondations sont redoutées après son passage au Mexique qui a fait un mort. Même rétrogradée d'ouragan à tempête tropicale, Hilary est restée dangereuse avec des vents de 95 km par heure qui ont balayé hier après-midi la péninsule de Basse-Californie au Mexique, d'après le Centre national des ouragans des États-Unis. L'Agence fédérale américaine pour les situations de crise FEMA a déployé ses équipes dans les régions que doit traverser Hilary. Les feux qui ravagent le Canada ont encore gagné du terrain dimanche dans l'ouest du pays où 2 larges incendies ont fusionné tandis que des milliers d'habitants paniquaient pour suivre leur évacuation. Les vents du nord ont favorisé la propagation de ces feux qui ont détruit plusieurs bâtiments de cette région touristique. À travers la Colombie-Britannique, En état d'urgence, environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation et 36 000 autres sont en état d'alerte et prêtes à fuir, ont indiqué les autorités locales. La candidate de gauche, Luisa González, dauphine de l'ex-président Rafael Correa en exil, est sortie vainqueur du premier tour de la présidentielle en Équateur dimanche. Madame González affrontera Daniel Noboa le 15 octobre prochain au second tour de cette présidentielle anticipée visant à trouver un successeur à l'impopulaire président conservateur sortant Guillermo Lasso. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco est signée Alexandrine Olognon.
Nous démarrons par le Niger. La filiale nigérienne de Bank of Africa a subi une baisse boursière de 19,2% depuis le début du mois d'août 2023, selon Ecofin qui cite African Market. C'est la dépréciation la plus marquée pour cette entité depuis mai 2019. Ces mouvements interviennent dans un contexte où le Niger, dont le président démocratiquement élu est détenu par une junte militaire, fait face à des sanctions économiques. Au Nigeria, le gouvernement envisage de céder des participations dans une vingtaine d'entreprises publiques pour mobiliser des ressources budgétaires et améliorer la gouvernance de ces entités. Selon Bloomberg, la cession de participation de l'État dans plusieurs entreprises publiques constitue l'une des réformes engagées par le nouveau président Bola Tinubu pour relancer l'économie nigériane. Des fans d'Apple ont célébré à Pékin les 30 ans en Chine du géant américain. L'entreprise californienne a organisé une série d'événements dans la capitale chinoise pour fêter sa longue présence sur ce marché crucial pour elle. Les ventes de Apple ont été affectées l'an dernier par la réduction de la production dans ses usines sur fond de strictes politiques sanitaires anti-Covid. Les contrôles américains à l'exportation sur les composants de haute technologie menacent également la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.
Maintenant, l'actualité sportive avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Bonjour et bonjour à tous.
Football pour commencer avec l'épilogue de la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Oui, et c'est l'Espagne qui remporte le trophée pour la première fois de son histoire après avoir dominé l'Angleterre en finale score 1-0. La Suède finit troisième suite à son succès 2-0 en match du classement contre l'Australie.
Toujours chez les dames, début hier des qualifications de la Ligue des champions féminines de la CAF.
Et c'est la zone B de l'UFOA qui lance les hostilités. Après le retrait de l'Ice Guard National du Niger, six clubs ont été répartis en deux groupes de trois. Et deux matchs ont déjà eu lieu. Dans la poule A, le club hôte Delta Queens démarre fort en battant 3-0 USFA du Burkina Faso. Belle entame aussi pour les Ghanéennes d'Ampemp Dakoa, vainqueur 4-2 des Togolaises Derby du Monde.
Chez les hommes, Élysée, on disputait ce week-end les matchs allés du premier tour préliminaire des interclubs de la CAF.
Tout à fait. Et en Ligue des Champions, belle performance du Far du Rabat qui est allé battre 1-0 les Togolais d'Asco du Cara. Son probable prochain adversaire a fait pareil en disposant 2-0 des Algériens de Constantine. Même score en faveur de Young Africans de la Tanzanie sur le terrain des Tchiboussins d'Azaz. Victoire spectaculaire des Libyens de Benghazi 4-3 contre Eniba du Nigeria. 1-0 en faveur des Angolais du Primero do Agosto qui recevaient la SV Club de Kinshasa. Et par contre, à Cotonou, Coton FC de Ouida a été tenu en échec 0-0 par la SEC d'Abidjan. Afia de Conakry a fait pareil contre les Sénégalais de Génération Foot. Match nul également entre l'AS Real de Bamako et Coton Sport de Garoua.
On jouait aussi le premier tour préliminaire aller en Coupe CAF.
Oui, et grosse désillusion pour les Béninois de l'Otopopo battus 3-0 par le fils du Rabat. Le stade malien s'est aussi rassuré en allant battre 3-1 les Libériens de Ouattanga. En revanche, la SCK du Togo a été tenue en échec à domicile 0-0 par les Ivoiriens du Djekanou. Et puis nul 1-1 entre Casa Sport du Sénégal et Étoile Filante du Burkina Faso.
Basketball à présent avec le tournoi de pré-qualification olympique au Nigeria.
Et c'est le Cameroun victorieux 80-74 du Sénégal qui représentera le continent au TQU programmé à quelques semaines des Jeux l'an prochain.
Pour terminer, Élisée, les Jeux de Paris sont déjà dans toutes les têtes. C'est aussi le cas chez les athlètes avec les mondiaux d'athlétisme à Budapest.
Une ultime compétition internationale pour les athlètes africains à un an des Jeux Olympiques. Et ça commence bien d'ailleurs avec un podium 100% éthiopien sur le 10 000 mètres féminin remporté par Gudaf Tesegei. Et au niveau des hommes, le Botswanais, Letsile Tebogo, sauf l'argent sur les 100 mètres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Maintenant, passons à notre page magazine. Coup d'état militaire au Niger, le chef de la junte met en garde contre une agression. Le général Abdourahmane Tchiani s'est en effet adressé à la nation samedi, au lendemain de la réunion de planification d'une éventuelle intervention militaire de la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Ceci alors qu'une délégation de l'institution régionale séjourne à Niamey pour des négociations. Entre-temps, des jeunes se font enregistrer comme volontaires pour participer à la défense du pays en cas d'intervention militaire. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
À la devanture du stade général Sémi Kountié de Niamey, ce samedi 19 août, de milliers de jeunes sont rassemblés. Objectif, figurer sur la liste des volontaires au service des nouvelles autorités dans le cadre de la défense de la patrie. Âgé de 24 ans, Nafissa Ibrahim attend son tour. Je suis arrivé à 6 heures du matin. Certains ont passé la nuit ici. Nous sommes venus pour nous rendre utiles à la nation. Nous voulons aider le général Tchiani pour qu'il développe ce pays qui a vraiment souffert. Il est notre espoir. Comme Nafissa, Abdul Nasser est aussi venu inscrire son nom sur la liste des volontaires.
Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à toute éventualité. Nous sommes prêts pour toute attaque. Pour tout celui qui veut venir arracher notre pays, il va le savoir. Ça, c'est sûr et certain. Nous sommes venus uniquement pour notre patrie, pour le pays, pour le Niger. On nous a demandé de venir, on est venus. On répond présent.
Selon les initiateurs de la création de cette base de données de jeunes volontaires, c'est le contexte qui exige cette dynamique. Bako Amsarou, co-initiateur.
Les gens pensent que c'est un recrutement que nous sommes en train de faire, mais en réalité, c'est une base de données que nous voulons tenir. Donc, de tous ceux qui peuvent être des volontaires, donc, peu importe la qualification, que la personne soit médecin, que la personne soit secouriste, que la personne soit chauffeur, ainsi de suite. En tout cas, nous avons besoin de tout le monde. Et maintenant, selon la qualification, selon le besoin, les autorités compétentes vont enfin faire appel à ces gens-là dans le cadre de la défense de la patrie.
Le soutien et l'engagement des citoyens aux côtés des nouvelles autorités ont encore été démontrés dimanche à Niamey à travers une manifestation qui a mobilisé de milliers de citoyens. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ousmane Sonko a été arrêté vendredi chez lui par une unité d'élite de la gendarmerie sénégalaise suite à une altercation avec une femme gendarme. Au lendemain de son arrestation, le procureur a annoncé des poursuites pour divers chefs d'accusation. Les avocats de l'opposant ont quant à eux répliqué ce dimanche. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Au départ, c'était un compagnonnage presque parfait, mais actuellement, la relation entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall est devenue plus que tumultueuse. L'exclusion de la plateforme Tahaw Sénégal de Khalifa Sall est venue ponctuer les actes de défiance et les passes d'armes au sein de la coalition d'opposition Yewi Askanwi. Cet architecte qui requiert l'anonymat estime que Khalifa Sall a tracé la voie de son exclusion.
Pour moi, Khalifa Sall s'est auto-exclu. Dès l'instant que tu appartiens à une organisation, cette organisation prend des décisions. Des décisions selon lesquelles nous, on doit se conformer à une telle ligne de conduite. On ne répond pas à l'appel du pouvoir. On ne répond pas au dialogue. On ne répond pas à certains appels du pied. Tu as toutes ces règles-là au pied et que tu vas répondre. Là, mais tu t'expliques. Même si Askan lui ne faisait pas de communiqué par rapport à ça, lui seul en âme et conscience, il devait savoir qu'il n'en fait plus partie.
Un avis partagé par Cheikh Ahmadou Bambandiaï, un Sénégalais de la diaspora. Pour lui, la démarche de Khalifa Sall n'est pas celle d'un opposant.
Comme Khalifa Sall est allé jusqu'à rejoindre la table de la coalition présidentielle, c'est qu'il est en connivence avec eux. Donc il ne peut plus prétendre être membre de l'opposition. Je pense que leur charte ou entente stipule clairement qu'il ne devait pas répondre au dialogue. Donc le faire, c'est s'auto-exclure.
Donc on est d'accord avec
vous. Mamadou John, élève en classe de terminale, se priver de Khalifa Sall et de ses alliés ne fera qu'affaiblir l'opposition et la coalition Yewé Askanoui en particulier, dont le leader Ousmane Sonko est actuellement interné dans un hôpital suite à une grève de la faim entamée pour dénoncer son incarcération.
Je pense qu'ils ne peuvent pas exclure Khalifa Sall parce que c'est un opposant et comme le but de la coalition Yewé Askanoui est de faire tomber la coalition au pouvoir, il ne sera pas de trop. Parce que c'est un cadre de l'espace politique. Il devait y aller ou pas, c'est une décision qui lui revient, même si la coalition avait préconisé le contraire. Maintenant, vouloir l'exclure pour ça, je pense que ce n'est pas normal et que ça n'a pas lieu d'être. L'opposition a besoin d'union et de toutes ses forces.
L'exclusion de Khalifa Sall de la coalition Yewé Askanoui divise autant les politiques que les Sénégalais. Pour les uns, c'est logique. Pour d'autres, se séparer d'un membre fondateur de la coalition Yewé Askanoui ne ferait qu'affaiblir l'opposition. Sérina Abagay, pour VOA Afrique, Dakar.
Il s'agissait plutôt de l'opposant sénégalais Khalifa Sall et non Ousmane Sonko. Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso. Au Gabon, le professeur Albert Ondo-Ossa, 69 ans, désigné candidat consensuel de l'opposition gabonaise à l'élection présidentielle du 26 août prochain. C'est le résultat de plusieurs jours de tractations conduites par la plateforme Alternance 2023. Ces candidats prennent l'engagement de terminer ensemble le sprint final de la campagne à quelques jours des élections générales. La plateforme Alternance 2023 a d'ailleurs organisé un grand meeting de présentation du professeur Albert Ondo-Ossa dimanche après-midi au Carrefour Rio à Libreville. Ambiance et réaction comme si vous y étiez avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Pour la plateforme Alternance 2023, le choix d'un seul candidat pour la présidentielle déjoue le piège tendu par le pouvoir en place de disperser les suffrages des partisans du changement véritable. Au terme de plusieurs jours de consultation, Alexandre Barreau-Chambrier du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, Paulette Nissambo de l'Union Nationale, les indépendants Mac Joktan et Raymond Don-Simon ont donc décidé de soutenir la candidature du professeur Albert Ondo-Ossa à l'élection présidentielle. François Dorobian, président de la plateforme Alternance 2023.
N'oublions pas que notre unité sans faille autour de notre candidat consensuel et notre nombre demeureront notre force avant, pendant et après l'élection présidentielle.
De l'avis de nombreux observateurs, le plébiscite de l'économiste de 69 ans relève d'une surprise, car au sein d'Alternance 2023, comme en dehors, Ondo-Ossa paraissait le moins visible des candidats sur le terrain des meetings et débats politiques. À peine désigné, le porte-flambeau de l'opposition appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour son élection le 26 août prochain.
Il vous appartient de vous mobiliser dans les villes pour que ce candidat devienne effectivement le prochain président de la République.
Orateur à l'éloquence puissante, l'ancien ministre Soubongo Père a séduit plus d'un indécis lors de la présentation de son programme de gouvernance à la télévision nationale. Makita Niembo, colonel à la retraite et membre du groupement politique, la PJ41, lui apporte son soutien.
Quand il parle, il dit on fera le Gabon avec tout le monde. C'est un compatriote sincère. Et le fait qu'il l'ait dit, j'ai trouvé ce monsieur au-dessus de la masse.
Une large partie de la société civile adhère aussi au choix du désormais candidat consensuel de l'opposition. Mais certains émettent encore des réserves sur la sincérité de tous les soutiens exprimés en faveur du professeur Albert Ondosa. Fortuné Edoué Sono est un activiste.
Vous ne faites pas un contrat de dupe. Vous faites semblant d'accepter à la bouche que vous êtes pour la candidature unique, mais derrière, vous devinez quelque chose d'autre qui est contraire à ce que vous avez décidé hier.
La plateforme Alternance 2023 ambitionne de dissoudre l'Assemblée nationale si son candidat est élu président de la République. Avec le désistement de 5 candidats, il ne sont plus que 14 en course, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba. Ismaël Odionze pour VOA Afrique, Libreville.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, les difficultés économiques et le conflit armé autour du bassin du lac Tchad dans la région de l'extrême nord affectent l'alimentation et la distribution en eau potable. C'est le cas dans la localité de Makari dans la région de l'extrême nord. Mais depuis quelques mois, la réhabilitation du système d'alimentation et de distribution en eau potable par la Croix-Rouge internationale, en collaboration avec l'État du Cameroun, a redonné du sourire aux ménages. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Longue file d'attente et longue distance pour s'approvisionner en eau d'une qualité douteuse, le calvaire des habitants de la localité de Makari a duré plusieurs années, affectant la santé de la communauté. Liman Adam, secrétaire général de l'hôpital de Makari.
Dans nos consultations, on peut avoir certaines maladies comme la schizophrénie, qu'on n'a pas au fréquemment ici, on n'a pas qu'à. Mais quand les gens sont en série, ça c'est beaucoup plus de gens qui habitent dans les maléos.
Près de 15 000 âmes vivent à Makari. La société camerounaise de distribution d'eau Kamwata couvrait à peine le quart des ménages à cause des installations vieillissantes et le nombre croissant d'une population fuyant l'insécurité. Un projet de la Croix-Rouge internationale au Cameroun, initié en 2020, vient de réhabiliter le système d'alimentation et de distribution en eau potable de la ville de Makari. Jérémy Jousselin, coordinateur eau et habitat de la Croix-Rouge internationale au Cameroun.
On va dire qu'on a entre 5 et 6 000 personnes qui peuvent avoir accès à l'eau par l'intermédiaire des bornes fontaines communautaires qui ont été construites dans le cadre de ce projet, qui permettent aux gens les plus vulnérables d'avoir un accès à l'eau avec un prix raisonnable. On a aussi pour objectif de connecter les ménages, les familles, et de soutenir en fait les connexions au réseau en subventionnant certaines familles qui étaient affectées par les problèmes d'insécurité de la zone.
En collaboration avec la société camerounaise de distribution d'eau Kamwata, un champ solaire a été installé à Makari afin de fournir l'énergie verte en continu pour le bon fonctionnement des pompes à eau au niveau des forages et de tous les équipements de la station d'eau. Haman Mohamadou, délégué régional de la Kamwata pour la région de l'extrême nord.
Ça arrive, ce casse-tête qu'on a à faire fonctionner le groupe électrogène. Le carburant est acheté à Kousseri et nous trouvons des moyens pour acheminer ce carburant. Mais aujourd'hui, nous pompons de l'eau gratuitement sans dire le groupe électrogène.
L'ensemble des ouvrages et équipements ainsi que le bâtiment de la station de production d'eau ont été également réhabilités, avec comme conséquence une nouvelle donne sanitaire dans la localité. Liman Adam, secrétaire général de l'hôpital de Makari.
C'est déjà un très bon pour nos résultats dans nos consultations. Parce que, auparavant, les gens étaient en train de se ravitailler, peut-être parfois dans les forages, c'est pas du tout hygiénique. Mais avec nous, de la Kamwata, on a actuellement, ça nous a beaucoup soulagé.
Désormais, à Makari, la production d'eau potable par système de pompage solaire est de 240 mètres cubes par jour pour une consommation journalière de 90 mètres cubes. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à Fatouma Alimasi Kalala qui était à la réalisation et à Jonah Cummings qui était à la technique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À la présentation, Nanit Talani. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, X, Twitter et Instagram. À très bientôt.